Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Ben Manson-Toussaint. Ben a grandi en Haïti et est actuellement basé à Lyon en France, où il travaille à Seek & Check, un marketplace pour les services de traduction qu'il a cofondé en 2019. Ben est un chercheur primé en intelligence artificielle avec des années d'expérience en modélisation des connaissances et en apprentissage automatique à partir de données multisources et complexes. Ben coach également des startups sur l'intelligence artificielle et le machine learning pour Google depuis plus de 3 ans maintenant. Il est un lecteur avide, passionné de voyage et de cuisine. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, Ben.
Merci beaucoup, David. C'est un plaisir d'être là avec toi et de discuter de tout ça.
Je suis très, très content de t'avoir ici. Et c'est intéressant, ces derniers temps, j'ai eu plusieurs conversations à propos de l'entrepreneuriat après le doctorat et ça va être intéressant d'avoir ton apport. Surtout que tu viens d'un domaine quand même très d'actualité où on en entend beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Moins le machine learning, je suis sûr que plusieurs d'entre nous, sans le savoir, on participe à des choses et à des applis où il y a une machine qui apprend quelque chose en arrière.
Tout à fait. C'est devenu complètement, largement diffusé maintenant.
Et, alors, Ben, donc, c'était vraiment une présentation très brève de toi, de ton trajet. Si tu avais une chose à ajouter pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, qu'est-ce que tu ajouterais à ce que j'ai dit il y a quelques secondes?
Ça résume assez bien et faudrait peut-être ajouter, c'est que j'ai commencé ma carrière dans la recherche, ensuite j'ai choisi j'ai déjà lancé des aventures qui ressemblent à de l'entrepreneuriat pendant que j'étais dans la recherche. Puis aujourd'hui, en fait, je me définis comme un entrepreneur, même si je n'ai jamais laissé ma passion de la recherche de côté. Mm-hmm. On pourra en parler tout à l'heure, mais je continue de faire de la recherche, même si c'est dans le cadre de mon entreprise.
Ok, mais c'est intéressant parce que c'est ça. Je pense que une des choses que les gens se disent, c'est ben si on quitte, on quitte et on n'aura plus cette chance de côtoyer d'autres chercheurs ou de participer à des projets de recherche. C'est intéressant que tu dises ça. On pourra en parler un peu plus tard. Mais j'ai pas encore eu l'opportunité ou la chance et je l'ai aujourd'hui de parler avec quelqu'un qui a fait un doctorat dans un domaine comme le tien. Est-ce que tu peux juste vulgariser un petit peu à quoi ça ressemblait ton doctorat? Parce que j'ai eu des gens qui travaillent aujourd'hui dans la science des données. Donc, tu sais, il y a une proximité, mais c'est pas exactement la même chose. Est-ce que tu pourrais juste rapidement vulgariser ton sujet de recherche ou juste le domaine où tu as travaillé au doctorat?
Alors, en fait, juste pour essayer de donner une définition, de commencer par une définition de l'intelligence artificielle, c'est ce domaine qui réunit toutes les contributions, soit techniques, approches méthodologiques et technologies pour permettre de créer des programmes qui puissent être autonomes dans leur apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'ici, on écrivait des programmes qui avaient un but précis et pour les faire évoluer, il fallait augmenter le code de ce programme pour lui faire d'autres tâches. Par exemple, vous avez Microsoft Word. Microsoft Word ne peut faire que de l'édition de texte et ne va pas forcément apprendre, même si ça tend à changer aujourd'hui. L'intelligence artificielle, en fait, est venue avec des principes, des algorithmes, des techniques qui permettent, en fait, de créer des programmes qui puissent évoluer avec l'expérience d'utilisation. C'est-à-dire, plus on les utilise, plus ils s'adaptent. Et plus ils sont capables, en fait, de sortir, de faire des inférences et, entre guillemets, de prendre des décisions en se basant sur les connaissances qu'ils acquièrent au fil du temps. Un petit peu comme un humain apprendrait ou comme un être vivant doté de ce qu'on appelle l'intelligence ferait.
Très bien. Et comment ça se passe un doctorat dans ce domaine-là? Est-ce que c'est beaucoup d'ordi? Je suis sûr.
Oui. Beaucoup d'ordi. En fait, mon sujet en particulier, parce qu'en fait, c'est un domaine qui est très vaste. On a tendance à mettre tout dedans, mais comment dire, moi, ma spécialité, en tout cas, le domaine dans l'expertise dans laquelle j'évoluais, c'était comment est-ce qu'on modélise ce qu'on appelle des connaissances ill-defined, mal définies, et des connaissances qui vont intégrer différentes modalités pour qu'on puisse permettre à une machine de les apprendre, d'apprendre ses connaissances. De manière plus précise, ces connaissances-là concernaient la chirurgie orthopédique, où en fait, ça intègre différentes facettes. Il y a les connaissances théoriques en anatomie, il y a le geste chirurgical avec un outil, par exemple, et puis il y a les perceptions, toutes les perceptions qu'utilise le chirurgien lorsqu'il est dans une procédure chirurgicale, c'est-à-dire lorsqu'il y a de l'imagerie pendant la procédure, les endroits qu'il va regarder au moment où il va prendre une décision, les sensations qu'il va avoir en utilisant son outil pour pouvoir prendre des décisions, savoir quelle partie de l'anatomie qu'il est en train de traverser avec son outil, etc. Comment est-ce qu'on peut modéliser ces connaissances-là? C'était ça ma problématique, pour intégrer ces connaissances dans une machine et qu'il soit capable, en fait, de guider un débutant qui utiliserait cette machine. En l'occurrence, cette machine, c'est un simulateur d'opération chirurgicale.
OK, c'est super, super intéressant. D'ailleurs, je pense qu'ici à Montréal, il y a quelques compagnies, ou du moins une grande compagnie qui fait des simulateurs autant pour les pilotes d'avion que aussi, je pense,
tout à fait,
maintenant pour ça. Et c'est intéressant d'imaginer que, en fond, c'est comme si t'étais en train d'essayer de télécharger le cerveau du spécialiste chevronné et pour aider. Non, super intéressant. Ça me fait aussi penser à mon passage à l'Université de Lisbonne où j'ai fait ma licence il y a très, très longtemps. Et à cette époque-là, j'entendais parler de quelqu'un qui travaillait sur des réseaux neuronaux. Oui. Sur l'ordi parce que moi c'était un labo de microbiologie, on travaillait avec des fromageries traditionnelles, et là c'était d'essayer de voir est-ce qu'on est capable d'apprendre à un ordinateur, à un réseau neuronal, à différencier des fromages que ça fait des années là, et j'imagine que ça a évolué énormément, mais ça me fait vraiment penser à quelque chose que dont j'avais entendu parler il y a très très longtemps.
Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait aujourd'hui on serait capable de créer ce qu'on appelle un modèle qui va utiliser tout ce que toi tu lui aurais appris sur la distinction des fromages pour créer un nouveau fromage qui n'existe pas, par exemple.
OK. Très cool. Très bien. Mais c'est ça, la puissance de calcul a exponentiellement grandi. Donc j'imagine que les possibilités sont aussi très très
absolument
plus vastes.
Ouais, et tu as nommé le point en fait qui a créé un changement énorme dans le domaine, parce qu'en fait les algorithmes eux-mêmes existent depuis les années 50, il n'y a pas eu de révolution majeure là-dessus. Ce qui a changé, c'est les données qui manquaient pour entraîner les algorithmes, et puis la puissance de calcul qui coûte maintenant pratiquement rien. Avant, il fallait par exemple, pour faire rien que ce que tu fais là, une petite interview par vidéo, etc., il te faudrait tes propres serveurs, il te faudrait une connexion Internet qui n'existait pas vraiment à l'époque, et dépenser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, avec une fraction de ce coût-là, on est capable d'acheter de la puissance de calcul sur le cloud.
Et souvent, il faut juste sortir ça de sa poche et on fait...
Voilà, en fait, juste le smartphone qui est aussi puissant que beaucoup de serveurs à l'époque.
Exact. Voilà. Très bien. Ben, moi, je serais curieux, avant de passer directement à ce que tu fais aujourd'hui et à ton passage à l'entrepreneuriat, parce que beaucoup des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ils sont maintenant encore au doctorat ou sont en train de considérer faire un doctorat. Est-ce que tu peux parler un petit peu parce que tu sais, j'ai déjà eu des gens ici des sciences sociales et humaines, moi-même et d'autres invités que j'ai eu sont dans les sciences de la vie. C'est une réalité ces deux réalités du jour le jour du doctorant, ouais, sont très différentes. Est-ce que tu peux un petit peu parler de ça, ressemblait à quoi ton passage au doctorat? Je sais que tu as été représentant des doctorants à un certain moment. Peux-tu parler un petit peu de, c'est ça, comment tu as vécu le doctorat ça peut ressembler à quoi pour quelqu'un qui aimerait aller dans un domaine similaire à ce que tu as fait?
Alors, bien sûr, avec toutes les réserves qu'il faut garder, vu que je parle avec le recul D'accord? Ceux qui vivent leur doctorat aujourd'hui ne peuvent pas ressentir les choses de la même façon. Et probablement, moi, je ne ressentais pas forcément les choses de la même façon. Donc, je parle avec le recul. D'accord? Ça a été une expérience vraiment très, très enrichissante, qui était difficile parfois. Et le plus difficile, quand même, ça restait dans l'idée de se dire que c'est un marathon et de construire, en fait, des automatismes qui nous mettent sur, en fait, qui nous permettent d'avancer et de sentir cette progression. Parce que l'une des difficultés qu'il y a, c'est de sentir qu'on progresse. Parce que sans cette perception de progression, on a tendance à se décourager, à avoir des moments de bas qui sont très, très difficiles à remonter, etc. Oui. Donc, j'étais dans une équipe qui était où l'ambiance était était bonne. Je pense que ça joue beaucoup. Et on était également sur la même longueur d'onde avec ma directrice de thèse et le contrat entre guillemets qu'on avait. Le prononcer, c'était d'avoir une certaine liberté sur ce que je pouvais ramener, ce que je pouvais amener comme proposition, de pouvoir les explorer tant que je respectais certains milestones, par exemple à certains moments d'arrêter de partir dans tous les sens sur les idées et de commencer à expérimenter et partir de l'expérimentation à quelque chose qui puisse se publier pour au moins pas forcément dans l'objectif d'avoir une publication qui soit acceptée, mais avoir au moins le retour de certains reviewers sur ce qu'on est en train de faire. Donc oui. Toujours en fait chercher à répondre à cette question: est-ce que je suis en train de progresser, et si je progresse, est-ce que je progresse dans le bon sens? Donc ça ressemblait un peu à ça. Et sinon, dans le domaine où je suis, c'est un domaine qui en fait quelque part à l'époque c'était relativement nouveau. Donc, pour te donner une petite idée, David, c'est ce que j'ai passé 3 ans à développer pour pouvoir modéliser des connaissances complexes, multimodales, etc. Aujourd'hui, il y a des outils gratuits, open source, qui permettent de faire ça en quelques jours. Voilà.
C'est quelque chose quand même. Ouais. Très bien. Et donc là, tu l'as fait en 3 ans. Oui. J'ai pas regardé où tu l'as fait, ou en tout cas, je l'ai pas en mémoire. Ouais, 3 ans, c'est quand même condensé.
L'Université de Grenoble.
De Grenoble. C'est condensé, okay. Oui. C'est condensé, 3 ouais. ans.
Je suis parti très, en fait, oui, c'est un petit peu le profil, probablement, en fait, le tempérament d'entrepreneur également que je me reconnais encore une fois avec le recul, hein, qui m'a poussé, en fait, à faire aussi vite. Parce que, en fait, j'ai défini des objectifs à la base plus ou moins clairs et que j'ai ajusté au fur et à mesure. Et ça permet de fait d'avoir un horizon, ça permet quand même d'aller un peu plus vite que lorsqu'on avance dans le flou, lorsqu'on avance à l'aveugle. C'est clair.
Et est-ce que tu dirais que dans ton domaine c'est un délai normal, 3 ans, ou c'était quand même rapide par rapport à ta cohorte, par exemple, aux autres personnes?
Ce n'est pas rare de voir des gens faire leur thèse, même en informatique, en intelligence artificielle, en 4 ans, 5 ans. Mais 3 ans, ce n'est pas non plus si extraordinaire, parce que de toute façon, il y avait cette contrainte-là qu'a mis l'université sur le fait d'encourager les gens à faire leur thèse en 3 ans. Et c'était une contrainte assez récente, en fait, à l'université. C'était si vous deviez faire 4 ans ou 5 ans, il fallait justifier les raisons pour lesquelles vous deviez pousser vers ça. Donc voilà, ça m'arrangeait bien, hein, personnellement, mais voilà, ce n'est pas si rare, en fait.
Ok, mais c'est bien, et c'est ce que je me disais, que par rapport à, par exemple, ou des fois des projets en SHS ou des fois même les gens n'ont pas de subvention, etc. Et donc ça peut être beaucoup plus long, ou bien dans les sciences de la vie comme moi où ça prend, il faut vraiment être très, ouais, il y a un côté chance, mais il faut que les étoiles s'alignent très bien pour que tu termines ça en 3 ans. Après, est-ce que tu aurais des conseils? Comment ça s'est passé pour toi? Ou comment ça se passe normalement dans ce domaine-là pour avoir des bourses, pour ton doctorat à ce niveau-là de l'intelligence artificielle, computation, etc. C'était facile?
Non, pas forcément. Alors, il y a différents types de financement. Selon le type de financement qu'on choisit, ben ça peut être plus ou moins complexe. Par exemple, il y a les thèses CIFRE. C'est pas que pour l'informatique, hein. Il y a les thèses
Les
CIFRE en
chiffres,
France où on fait sa
oui.
thèse, ouais, en
En
entreprise
entreprise.
et en laboratoire. En parallèle, on a deux équipes à gérer. Je vais dire, si ça se passe bien, c'est génial parce que ça va vous booster. Si des deux côtés ça se passe bien, mais si les deux équipes quelque part ou les deux objectifs ou les deux enjeux sont en conflit, j'ai vu des doctorants pour lesquels, à l'époque, je faisais ma propre thèse, c'était très très compliqué parce que l'entreprise avait ses propres enjeux qui n'allaient pas forcément dans le même sens que les travaux de recherche. Moi, j'ai été financé par l'Agence universitaire de la francophonie, qui est en fait une bourse d'excellence pour en fait on candidate et puis c'est sur le dossier, sur ce qu'on a fait en master notamment, en master recherche, et avant on vous attribue une bourse. Et comment dire, le laboratoire compte beaucoup aussi, et non seulement le laboratoire mais également l'équipe dans laquelle on est. Le laboratoire compte dans le sens où si c'est un laboratoire qui a du financement, on peut, par exemple, se permettre des choses telles que faire des publications et partir rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Et ces échanges-là sont cruciaux pour vous permettre d'évoluer et savoir et avoir des critiques construites et constructives sur son travail. Donc ça, c'est une grande chance en fait d'avoir soit un laboratoire qui a les fonds nécessaires, soit une équipe ou le projet dans lequel on entre. Parce que ça peut être tout simplement un projet aussi qui a le financement qu'il faut et qui a aussi un sujet qui soit porteur. Donc, comme tu dis, il y a beaucoup d'étoiles qui doivent s'aligner. La relation avec le superviseur, l'ambiance dans l'équipe, et puis ses propres motivations et quotidien. Donc, voilà.
Non, et maintenant, après toi, c'est ça, clairement, de ce que tu disais juste auparavant, ton côté entrepreneur était toujours là, même pendant ton doctorat, et ça a fait que tu as essayé de faire ça en le moins de temps possible. Mais tu as quand même réussi, parce que je trouve que une des choses qui peut manquer au doctorat, si tu reste juste dans la bulle de ta recherche, c'est un côté réseautage, un côté
Oui.
faire partie d'une communauté. Et toi, tu étais représentant des doctorants. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Parce que j'imagine qu'il y avait du temps. Ou est-ce que non, c'est quelque chose que tu as réussi à bien intégrer dans ta vie doctorale?
Oui, très 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 bonne question. En fait, j'étais représentant des doctorants dans le conseil du laboratoire. Il y a plusieurs corps de métier, les professeurs, les directeurs d'équipe, les étudiants, stagiaires, etc. Donc, j'étais le représentant des doctorants. Et ce que vous savez sans doute, hein, ce que toi tu sais, David, c'est une expérience qui peut être assez difficile, une thèse. Il y en a certains qui sont isolés. Et le laboratoire où je faisais ma thèse était très très conscient de ça. Par exemple, il permettait, chaque doctorant avait la possibilité d'avoir un parrain autre que son superviseur à qui il pourrait se confier si jamais il y avait des difficultés. Et il y avait ce qu'on appelle en fait, tous les jeudis, des derniers jeudis ou les premiers jeudis, je ne me rappelle plus exactement, du mois où il y avait des sessions où les doctorants pouvaient discuter avec d'autres personnes de leurs difficultés éventuelles, etc. Et qui serait remonté directement à la direction du laboratoire et avoir des décisions, en fait, ou des problèmes qui peuvent être relativement graves, par exemple des conflits avec le superviseur ou des problèmes dans l'équipe, etc. Le représentant des doctorants était là justement pour rapporter, en fait, pour faire le lien sur les difficultés que rencontrent plusieurs doctorants et qui est suffisamment sérieux pour pousser à prendre des décisions sur la façon et à changer la façon de faire les choses. Genre, par exemple, si un doctorant a besoin de financer un voyage, de financer qui pourrait être responsable de ça? Est-ce qu'on peut alléger les démarches ou qui est-ce qu'il devrait aller voir? Comment est-ce qu'on peut simplifier ce type de démarche? des budgets pour des choses telles que la traduction, la relecture, des choses comme ça, et également l'organisation d'événements tels que les journées des doctorants, des événements en fait qui permettent aux doctorants d'avoir des occasions de ne pas rester isolés, de ne pas rester dans leur coin, parce qu'en fait ça peut être très 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 compliqué mentalement et psychologiquement. Oui. Donc voilà, le rôle en fait, on jouait ce rôle-là d'amener quelque chose qui permettait aux doctorants, qui offrait aux doctorants des possibilités pour ne pas en fait pour optimiser leurs chances de progresser dans leurs travaux de recherche.
Je trouve ça vraiment vraiment génial. Et mais c'est ça, je me dis que pour toi ça a dû, même si ça t'a pris du temps, il y a un côté s'impliquer dans la vie du groupe des doctorants. Deux, il y a aussi être en contact avec les autres corps de métier, comme tu disais.
Absolument.
Ça a dû avoir des côtés positifs dans. Je sais pas si tu dirais que ça a des échos sur ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est quand même parce que on dirait que si tu fais partie, ou que ce soit d'un groupe, une association étudiante, etc. C'est comme si tu commençais à avoir une vie doctorale, mais à un autre niveau, plus tu croises d'autres gens, tu as d'autres conversations, ton cerveau est pas tout le temps et ta préoccupation n'est pas tout le temps juste sur ton sujet de thèse.
Donc ça doit faire. Ni juste sur toi-même non plus.
Ni juste sur toi-même.
Et c'est très très valorisant parce que personnellement, j'ai l'expérience de doctorat est souvent difficile, mais j'avais beaucoup moins de difficultés que la plupart des autres doctorants que je connaissais. Financier, j'étais dans une bonne équipe, j'avais une bonne relation avec ma directrice de thèse, j'avais une bonne relation avec mes collègues, etc. Tout le monde n'a pas cette chance-là, donc j'avais cette possibilité d'être là pour d'autres qui avaient un peu plus de difficultés, d'ailleurs que je voyais, que je côtoyais tous les jours, et de pouvoir les aider là-dessus. En fait, me paraissait quelque chose d'important. En fait, d'amener un tout petit, une toute petite chose, une toute petite pierre, pas forcément révolutionner leur environnement ou l'environnement dans lequel ils évoluent, mais en tout cas, faire les choses, faire progresser les choses dans le bon sens.
Oui, mais je trouve ça très très bien et je pense que instinctivement, on pourrait se dire, oh là là, tu vas perdre du temps, ça va avoir un effet délétère sur ta progression. Et tous les gens à qui j'ai parlé qui ont fait quelque chose comme ça, qui ont organisé des séminaires avec des anciens élèves qui sont maintenant dans l'industrie ou quelque chose, ils ont gagné avec ça. Et ça n'a pas nuit à leur progression. En tout cas, je trouve que c'est un très bel exemple et très noble d'aller vouloir aider les autres. Et c'est quelque chose qui résonne avec moi, comme tu dois imaginer. Mais là, en ce moment, étant donné qu'on va quand même parler d'entrepreneuriat, t'es au doctorat, les choses vont bien, tu fais partie de, tu sais, tu t'assieds à table avec ces gens-là pour être l'oreille et la voix des autres doctorants par rapport à ce qui se passe dans le laboratoire. Maintenant, quand dans tout ce cheminement-là, est-ce que l'idée de je vais terminer mon doctorat et après je vais lancer une entreprise, quand est-ce que c'est venu? Quand est-ce que tu as eu cette eureka-là?
Alors, je suis passionné de la recherche. Ça peut pas être cliché de le dire, mais c'est un processus qui me parle, qui me ressemble en fait. De se poser des questions et d'aller chercher les réponses, des réponses qu'on puisse valider de manière objective, c'est quelque chose qui me parle. Et à bien des égards, le doctorat ressemble beaucoup à une aventure entrepreneuriale, mais la première démarche que j'ai eue après ma thèse, et ça avait été même avant la thèse, c'était de lancer un laboratoire de recherche scientifique dans mon pays d'origine, Haïti, sur le domaine, et donner à d'autres la possibilité, ou également, parce que ce n'est pas évident de faire une thèse tout court, de faire une thèse dans un laboratoire où on a toutes les chances d'apporter quelque chose qui est scientifiquement valable, c'est encore plus compliqué. Donc, en gros, on avait ce projet-là de lancer un laboratoire où d'autres doctorants pourraient être formés et où ça faciliterait les échanges avec d'autres universités en France, au Canada et aux États-Unis. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait tout de suite après. En fait, pendant la thèse, je travaillais sur ce projet avec mon ancienne université. parce qu'en fait ça a été notre partenaire sur ce projet-là. Donc on a monté le projet, financé également par la UF, on a trouvé d'autres financements également et réuni les équipes et les partenaires. On était partenaire de du GEDAC qui est à Montréal, c'est un laboratoire à Montréal. On était également partenaire de Virginia Tech, partenaire du LIG, le laboratoire d'informatique de Grenoble où je faisais ma thèse justement, où j'ai fait ma thèse, et le LIPSIS sur certains projets. Donc réunir ces partenariats là pour que le laboratoire ait une existence internationale dès sa création. Et il a fallu valider un projet de recherche qui soit viable pour un laboratoire, et ça a été évalué par des experts externes et qui venaient de différents pays, des chercheurs dans le domaine, etc. On a fait valider cette étape également. Donc j'ai lancé cette structure là. Et malheureusement j'ai dû, au bout de quelques années, je l'ai dirigé pendant quelques années, on a formé des doctorants, j'ai dû quitter le projet pour des raisons personnelles et revenir en France. Mais entre-temps, j'ai lancé l'un de nos projets en fait, qui était de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation, s'est transformé en aventure entrepreneuriale. Et une fois qu'en fait on a fait un exit, en fait j'ai laissé ce projet. À la fin, j'ai décidé de démarrer avec le projet sur lequel je suis aujourd'hui, parce que à l'époque, c'était une frustration. C'était une frustration pour moi et pour d'autres d'ailleurs doctorants que je connais. Lorsqu'on doit publier, parce qu'il y a cette obligation de publication, lorsqu'on doit publier dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, il nous faut un traducteur qui connaisse le domaine. Un traducteur qui a l'habitude de travailler sur des publications scientifiques, donc au-delà de la langue. Donc toi, David, tu dois connaître autant que tu dois pouvoir en dire autant que moi là-dessus. Donc c'était compliqué de trouver le bon traducteur sans avoir à passer par une agence, et pour un doctorant, tu sais, on est pauvre, on est étudiant, et du coup payer pour de la traduction alors qu'on n'arrive même pas à payer pour une conférence, etc., c'est compliqué. Donc en gros, lorsque j'ai vu la complexité que ça représentait, je me suis dit qu'il y avait moyen en fait de faire quelque chose là-dessus en appliquant ce que je connaissais de l'intelligence artificielle. Donc en gros, au lieu de partir sur des processus de recrutement, on va sur une place de marché, on publie un projet, on regarde les différents profils, on regarde en fait les prix proposés, etc. On s'est dit, c'est possible de réduire en fait tout ce processus-là d'aller, venir, etc. en 30 secondes au lieu de prendre 2 semaines pour recruter quelqu'un. Oui. Si vous uploadez votre fichier, on est capable d'analyser le contenu. On peut créer un programme d'intelligence artificielle qui soit capable d'analyser le contenu et d'aller chercher dans notre base de données, de traducteurs, qui a déjà eu une expérience avec ce sujet, qui a déjà eu une expérience avec ce type de document et qui a déjà une expérience avec cette langue. Et en 30 secondes de vous dire, voici la bonne personne qu'il faut.
OK.
Pour ce document. Et voilà.
Et ça, c'est à seekandcheck.com.
C'est à seekandcheck. Mais entre temps aussi, il y a juste un détail, c'est que lorsque j'étais dans ce projet, avant même seekandcheck, hein, lorsque j'étais dans ce projet, j'étais abordé par Google et je les ai rejoints pour coacher. Ça m'a conforté en fait dans l'idée que je voulais démarrer une entreprise pour moi-même, parce que mon job là-bas, c'était quoi? C'était d'accompagner des startups qui étaient financées, qui sont financées par Google, et de les accompagner sur leurs problématiques d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, en fait, s'ils étaient coincés sur les algorithmes qu'ils créaient, s'ils n'arrivaient pas à créer le bon produit, s'ils n'arrivaient pas à le valider ou à le tester comme il faut, eh bien, je leur apportais mon expertise pour faire avancer leur produit, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux commerciaux et financiers, de faire avancer leur produit. Et ça, en fait, ça m'a remis dans la ligne d'idée que, ben, je veux créer des produits que d'autres, en fait, trouveront utiles. Je veux créer des choses qui peuvent faire un changement, en fait, avec ce que je connais de mon domaine.
Très bien. Et donc, là, parce que, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui, oui, sont devenus entrepreneurs après le doctorat, ou oui, sont au doctorat et pensent à l'entrepreneuriat. Et un des obstacles, c'est au doctorat, personne ne nous apprend à être entrepreneur.
C'est vrai.
Et je serais très curieux que tu partages avec l'auditoire comment est-ce que tu as fait pour faire de toi un entrepreneur, parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a du vocabulaire, il y a toute une culture, il y a des habitudes. Comment est-ce que tu l'as fait ou quel conseil tu donnes à quelqu'un qui est à son laboratoire et qui se dit là ce que je fais ça pourrait donner un projet d'entreprise.
Je pense que c'est très lié au fait que comme tu l'as bien dit tout à l'heure, j'aime côtoyer les gens et j'en côtoie le maximum que je peux quand je le peux. Bien sûr, je me garde mes moments pour moi, certains moments pour moi également, mais c'est une expérience que j'aime, en fait, ouvrir les horizons, etc. Or, en fait, j'ai eu la chance cet esprit d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a beaucoup quand même en Haïti, il faut le dire. Mais ce n'est pas forcément alimenté parce qu'on n'est pas dans un milieu qui encourage cela, parce qu'en fait, il n'y a pas l'écosystème qu'il faut. Okay. Quelqu'un qui grandit à San Francisco, c'est presque naturel, en fait, pour lui ou pour elle, de penser à l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a que ça autour de lui. Quelqu'un qui grandit, peu importe à quel endroit dans la baie, hein, dans la Silicon Valley, ou dans des pôles de développement d'entreprise, il y en a plein d'autres. Toronto, Ottawa, etc. sont en train de monter. Montréal, on entend parler de ça. Ça nous paraît quelque chose de moins loin.
Il y a une culture, il y a des ressources. Oui.
Exactement. Il y a des ressources. L'écosystème est là. On entend parler d'investissement. On voit les investisseurs. C'est pas une espèce de rêve qu'on sait qu'on ne peut pas toucher. Donc, du coup, en fait, j'ai eu la chance, en fait, d'être sur un campus, dans une université. Où on entendait quand même autour de nous, même si on était en thèse, etc., on entendait quand même autour de nous parler de ça. Ça a nourri cet esprit d'entrepreneuriat. Lorsque je dis que j'entends parler de ça, par exemple, le laboratoire d'informatique d'OpenOble a un incubateur pour les doctorants qui veulent transformer leur idée, leur proposition et leur contribution scientifique en quelque chose qu'ils pourraient tester en tant qu'entreprise. Et Grenoble et son environnement, vous en avez peut-être entendu parler. Il y en a certains qui surnomment ce coin-là la Silicon Valley de France. Ça a probablement changé, hein, parce qu'il y a eu d'autres pôles qui ont évolué dans ce sens. Mais il y a énormément d'innovation dans ce coin-là, de par la puissance des laboratoires qui s'y trouvent et des universités qui s'y trouvent. Il y a beaucoup d'innovation et ces innovations-là sont encouragées vers des aventures entrepreneuriales. Et ça nourrit également lorsqu'on est doctorant.
Comme une pépinière.
Ça ne suffit pas. Exactement. Mais ça ne suffit pas pour se dire je vais faire ça. Et là encore, en fait, j'ai eu la chance de croiser les bonnes personnes. Lorsque je suis allé à Google, je croisais tous les jours des entrepreneurs extrêmement brillants. Je croisais des investisseurs qui m'expliquaient ce qui les poussait à investir dans des boîtes. C'est pas qu'une question d'argent, contrairement à ce que beaucoup pensent. Certains investisseurs vont investir dans des produits dans lesquels ils croient vraiment. C'est pas juste pour le potentiel de retour sur investissement. Et lorsqu'on entend ce type de discours, lorsqu'on entend on se dit, OK, et comment est-ce que je peux donner vie à ce rêve qui m'a toujours suivi? Comment est-ce que je peux donner vie à ce... Et à partir de ça, c'est à partir de là, en fait, qu'on commence à sentir le manque lorsqu'on n'est pas dans un écosystème où ceci est omniprésent. Et moi, j'ai comblé ce manque par les conversations avec des gens que je sais qui sont passés par là. Ce que tu es en train de faire là, c'est génial. Ça résonne avec moi, en tout cas. On sent le lorsqu'on en fait j'ai essayé de pallier ça avec des conversations avec des gens beaucoup plus expérimentés que moi qui ont vécu ça et puis par la lecture je suis vraiment un lecteur avide, c'est presque boulimique et littéralement, hein, c'est-à-dire c'est un besoin et voilà. Et du coup, ça peut pas être cliché, mais j'essaie de lire un bouquin par semaine. J'y suis jamais arrivé. Hein. Le maximum que je suis parvenu jusqu'à présent sur une année, c'est 43.
Ok, quand même.
Donc du coup, j'ai commencé à changer les thématiques sur lesquelles je lisais. Je lisais beaucoup sur les bouquins écrits par d'autres entrepreneurs, notamment dans la Silicon Valley, dans lesquels on peut apprendre énormément parce que ça s'écarte des récits fantastiques qu'on voit dans les journaux, les récits fantastiques qu'on voit dans les médias, parce que là c'est la personne qui vous décrit en fait ce qu'elle a vraiment vécu, ce qu'elle a les difficultés qu'elle a eues, tous les problèmes en fait qui ne se trouvent pas étalés dans les médias, et à ce moment-là on comprend en fait ce que représente vraiment l'aventure, et ça comble les lacunes qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas dans un écosystème comme ça.
Et alors maintenant pour ramener aux pratico-pratiques, comment, parce que j'ai mentionné que tu l'as cofondé, c'est comment le processus de, dans le fond, de lancer une entreprise de service, je sais pas si c'est vraiment business to business ou en tout cas, mais c'est comment, tu sais, quelqu'un qui est en France et qui veut lancer quelque chose de similaire, à quoi on peut s'attendre en termes de paperasse, des marchages, etc., etc.
Ouais. Oui. Alors, tout le processus est en train d'être simplifié, hein. L'idée, moi, ce que je dis souvent, et ça, c'est l'un des défauts qu'on peut avoir en tant que chercheur ou en tant que quelqu'un qui a fait une thèse, etc., c'est qu'on nous apprend à créer quelque chose de parfait.
Oui.
Avant de le publier. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on va peaufiner notre papier, les expérimentations,
mais
les
non, suivants. Pas assez.
Exact. Voilà.
On le dit pas assez, je sais pas combien de fois, oui. Oui.
Et ben, l'aventure entrepreneuriale, c'est un peu l'inverse, en fait.
OK.
En gros, c'est l'utilisateur. On a une idée qu'on pense qu'il peut marcher. On va créer un produit qu'on pense qui adresse le problème qu'on veut résoudre. Mais on va créer le minimum possible, en fait. MVP. The minimum viable product. On va créer ce produit-là qui est imparfait au possible, plein de bugs, pas du tout adapté, etc. Qui est un crève-cœur hein, pour un scientifique. mais en fait, cette démarche-là, je l'ai appris sur le tas. Mm-hmm. Donc, publier, commencer par ça. Avant même de penser à créer une entreprise, à créer une structure, il faut s'assurer que est-ce que mon problème, l'hypothèse que je fais sur la résolution de ce problème est la bonne. Donc, il y a différents moyens de tester ça. Et c'est là que quelqu'un qui a fait une thèse a un avantage certain par rapport à d'autres. C'est qu'on sait comment être rigoureux sur des hypothèses. On sait comment être rigoureux et ne pas être complaisant sur les résultats qu'on obtient. Et ça, c'est un avantage qu'on peut vraiment exploiter quand on est entrepreneur, de tester en permanence des idées et des suppositions et de pouvoir les valider comme il faut. Des fois, c'est l'émotion, on ne peut pas, c'est l'émotion qui va décider. Hein.
Oui.
Pas tout le temps cartésien, mais très souvent, en fait, il faut quand même ce côté froid et scientifique et objectif pour prendre des décisions. Et très rapidement, on va commencer à se mettre pareil. Si on a cette validation en se disant, OK, je pense que je peux vraiment adresser le problème d'un certain nombre de personnes. On va commencer à enregistrer son entreprise, choisir une forme juridique, etc. Et en France, ça s'est beaucoup simplifié. Et depuis aussi avec le dernier gouvernement, ça s'est beaucoup simplifié.
Très bien. Après, quand tu l'as cofondé, est-ce que la personne avec qui ou les personnes avec qui tu l'as cofondé sont aussi des chercheurs à la base ou pas du tout? Je suis en train d'essayer de comprendre si une des choses que les gens il faut qu'ils pensent c'est d'aller chercher avec un profil différent ou commercial ou est-ce que tu aurais un commentaire là-dessus?
Oui, ce que je conseillerais quand même, ce serait d'aller chercher un profil complémentaire lorsque c'est possible. Mais moi, par exemple, j'ai cofondé Sikhandcheck avec des personnes que je connaissais depuis un moment déjà, pour la super bonne raison que c'était des personnes que j'avais embauchées dans mon ancien laboratoire. C'est des ingénieurs de recherche dans mon laboratoire. Donc, je les connaissais, on est devenus amis. On travaille efficacement ensemble. Donc, lorsque je suis passé à ce projet-là, on a commencé à en discuter lorsque on était sur cette autre aventure. On a travaillé sur d'autres projets au sein du laboratoire ensemble et on a décidé de partir en fait sur cette idée-là. C'est pas forcément des. Il y en a un qui avait comme moi un projet entrepreneurial d'avant. Et qui savait ce que ça pouvait demander et l'autre en fait qui a travaillé beaucoup dans d'autres grosses boîtes. Daniel a travaillé beaucoup dans d'autres grosses boîtes et pouvait amener cette expérience là d'un produit bien fait, etc. Luigi, quant à lui, il a l'esprit entrepreneurial né, il est très jeune, hein, il a 23 ans, mais c'est en termes de maturité il a mon âge. en fait, je veux dire, je ne vais pas dire qu'il est vieux dans sa tête, mais il est très, très mature pour son âge. C'est un entrepreneur né. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé tout de suite. Et on a démarré ce projet en sachant, en fait, dans quoi on plongeait. Mais si je devais avoir un conseil sur comment trouver ses associés, quand on n'est pas technique, si on veut produire, créer une start-up dans la tech, quand on n'est pas technique, faut quand même aller chercher quelqu'un qui aurait ces compétences-là, qui peut coder, qui peut développer le produit sans qu'on ait besoin d'une compétence externe. Mmh. Et également, si on n'a pas la fibre commerciale, c'est soit, en fait, vous plongez dedans et vous apprenez sur le tas, soit vous prenez quelqu'un avec vous qui pourra vous compléter, en fait, sur cet aspect-là.
Très bien.
Donc voilà.
Oui, tout ça est très logique. Maintenant, malheureusement, on arrive vers la fin de notre conversation, parce que je me dis que si tu retournes avant ton doctorat, tu pouvais pas soupçonner dans le multivers de choses possibles qui arriveraient après le doctorat de te rendre où tu es aujourd'hui. Et là, j'aimerais peut-être que tu, en pensant à quelqu'un qui peut-être finit son master, pense au doctorat, a peut-être la fibre entrepreneuriale, peut-être est en Haïti, est au Portugal, va devoir voyager pour faire son doctorat. Est-ce que il y a une stratégie à avoir quant à son sujet de thèse, si on sait quand même déjà un petit peu qu'on a la fibre entrepreneuriale et que potentiellement à un moment donné après on veut être en business, on veut faire une entreprise. Parce que je me dis que c'est pas tous les sujets de thèse qui s'adonnent à cet exercice-là non plus.
C'est vrai. Alors, la chose, c'est que c'est très, très difficile de pouvoir choisir un sujet qu'on sait qui peut peut-être se transformer en un produit qui puisse avoir du succès commercial. C'est très compliqué. Mais par contre, on peut quand même se poser la question de combien de personnes s'intéressent, si c'est vraiment ça, hein, parce que je pense qu'il y a des problèmes qu'on peut adresser qui sont intéressants sans que ça intéresse beaucoup de monde. Mais si vraiment, en fait, ça vous passionne de se dire que vous allez faire quelque chose qui intéresse le maximum de monde, posez-vous cette question, en fait. Est-ce que ça, c'est un problème qui vous passionne vous, tout seul, hein? Est-ce que ça te passionne en tant que personne, ou est-ce que, en fait, tu penses que non seulement ça te passionne, mais ça pourrait être intéressant pour beaucoup de monde également. Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est pas tant un problème que ça, parce qu'on peut faire autre chose que d'appliquer ce qu'on fait en recherche comme entreprise, parce qu'un entrepreneur, en fait, peu importe à quel moment vous le mettez, il créera quelque chose. C'est un besoin également. Il va créer quelque chose. C'est pas forcément lié directement au sujet sur lequel on travaille. Tu peux exploiter l'expérience que te donne le doctorat pour devenir un meilleur entrepreneur. Si c'est parce qu'en fait, ça donne un sens de la résilience. Ça entraîne la résilience, ça entraîne la patience, ça entraîne la rigueur. Et ces qualités-là, on peut les exploiter dans son aventure entrepreneuriale. Donc, même si le sujet en soi ne peut pas se transformer, les résultats de son sujet de recherche ne peuvent pas se transformer en produit commercial, et l'expérience, en fait, peut clairement être exploitée dans son évolution d'entrepreneur.
Je suis d'accord. Et maintenant, un dernier petit conseil ou un dernier petit point que j'aurais à te demander pour que tu partages avec les gens qui nous écoutent. Pas tout le monde est dans un Grenoble. C'est pas tout le monde qui est à l'université, où c'est une pépinière, où il y a des incubateurs. Est-ce que tu aurais... Et vraiment pour terminer, déjà je vais vous partager que Ben est sur LinkedIn. Donc Ben, j'imagine que si les gens ont des questions, ils ont été inspirés par ce que t'as dit et ils veulent peut-être mener la conversation un peu plus loin, ils peuvent te trouver facilement sur LinkedIn.
Avec plaisir. Ouais.
N'hésitez pas. Moi, à chaque fois qu'il y a des invités, je leur pose la question et il y en a pas un qui dit non, je veux pas que les gens viennent vers moi.
J'adore partager. Et j'aime ça parce qu'en fait, je trouve toujours quelque chose d'enrichissant dans ces échanges.
Oui, c'est ça. C'est donnant là. C'est dans les deux sens. Mais ma question pour toi, c'est pour quelqu'un qui n'est pas à une place où dans la culture de l'institution, du laboratoire, il y a déjà des choses qui sont apportées. Il y a déjà une énergie qui est mise dans amener les doctorants qui sont intéressés vers quelque chose d'entrepreneurial. Quelle serait une habitude à gagner ou, bon, lire beaucoup certains livres, peut-être même tu pourrais m'en proposer quelques-uns pour que je mette sur les notes d'épisode, mais imagine t'es dans une université un peu plus éloignée, plus petite, mais tu l'as la fibre entrepreneuriale, mais il n'y a pas une structure autour de toi. À part aller sur LinkedIn et parler à des gens comme Ben, est-ce que tu aurais d'autres suggestions pour terminer notre conversation de quoi faire?
Oui, bien sûr. Alors, je pense que la première chose, c'est de se dire que ça n'a jamais été de toute l'histoire de l'humanité aussi facile de démarrer une entreprise et aussi peu cher. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il nous faut, c'est un ordinateur qu'on a de toute façon. C'est voilà. Et une idée, en fait. Une première idée de ce qu'on veut tester et de avec qui on veut tester cette idée. Donc, ce que je suggère, c'est que commence à développer quelque chose. Ça peut être juste, en fait, une interface qui ne fonctionne pas du tout, mais ça va faire mûrir, en fait, cette idée dans la tête, ou discute-en avec des gens, parce qu'en fait, souvent, lorsqu'on a une idée, on a peur que d'autres recopient cette idée. Si c'est si facile de recopier l'idée, vaut mieux peut-être pas la développer en entreprise, parce que de toute façon, tu seras recopié. Mm-hmm. Donc, discute-en avec d'autres, et comprends, et ne t'attache pas à une idée, parce qu'en fait, c'est ton idée, etc. Tu dois pas avoir ce lien-là avec une idée. Si elle est démontée par l'entourage, essaie de prendre le bon, essaie de comprendre en fait ce qu'il y a d'objectif là-dedans. Continue de tester ou alors passe à autre chose. Mais il faut commencer. Il faut pas que tout soit aligné contrairement à une thèse. Mm-hmm. Au contraire, c'est toi qui va pousser les étoiles dans le bon alignement. Il faut pas attendre qu'elles s'alignent. En gros, il faut commencer. Mais le premier, mets-toi au boulot tout de suite. Il faut pas attendre d'avoir de l'argent, d'avoir des investisseurs, non, commence tout de suite. Commence à implémenter l'idée. Et à comprendre en fait ce que ça donne. Il y a des forums, des contenus, il y a des plateformes telles que Y Combinator, qui est un incubateur qui est très 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 connu, où il y a plein d'éléments de connaissances qu'on peut consulter sur les sujets qui nous intéressent lorsqu'on crée une entreprise, etc.
Merveilleux. Ben, j'aurais pas pu demander plus ou mieux. Super. Si j'ai mentionné LinkedIn, si les gens veulent te joindre sur d'autres plateformes, comment est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Alors, sur LinkedIn, je suis très réactif sur LinkedIn. C'est la plateforme en fait avec sur laquelle je garde le plus contact. Après, bon, je suis pas très actif sur Twitter, pas très actif sur Instagram. Mais si on m'écrit sur ces plateformes, je répondrai. Hein. C'est juste que je sais plus de quand date mon dernier tweet. de moi. Mais LinkedIn, en fait, c'est la plateforme par excellence, ou éventuellement par email ben@sigandcheck.com. Mais bon, je serai sans doute beaucoup plus réactif sur LinkedIn vu l'immédiateté de la notification.
Oui, et dans ce contexte-là de l'entrepreneuriat, du business, c'est la plateforme où trouver des groupes de discussion et où faire un peu l'exercice que Ben était en train de suggérer il y a quelques secondes. Parfait. Ben, c'était vraiment un grand plaisir. Merci d'avoir partagé ton trajet, un peu l'historique de comment tu t'es rendu où tu es aujourd'hui, et aussi tes conseils pratico-pratiques de comment s'y mettre, comment mettre les mains à la pâte dans le fond, parce que je pense que tu as mis le doigt dessus. Il faut, si on a l'idée, il faut mettre les mains à la pâte et essayer de si on peut en discuter avec quelqu'un pour ajuster un peu avant de se lancer, mais c'est ça a été très très riche en informations. Et encore une fois, si vous écoutez, si vous regardez et que vous voulez continuer la conversation, ben allez sur LinkedIn. Moi, je suis dessus, Ben est dessus, et ce sera un plaisir de répondre à vos questions.
Merci beaucoup, David, et merci pour tous ceux qui ont suivi. C'était un plaisir, en fait, de cette invitation.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, un trésor de la voûte, ma conversation avec Ben Manson-Toussaint. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com/paypal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus, N'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, bon partage et au prochain épisode d'Au-delà de la thèse.